BFM Business et Tech&Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Bonjour à toutes et à tous. Toujours un vrai plaisir que de vous retrouver pour votre rendez-vous du week-end De quoi je me mêle. Le vendredi, dès midi, sur la chaîne YouTube de BFM Tech, le podcast audio qui arrive aussi en même temps, avec quelques minutes supplémentaires, vous le savez, et puis tout le week-end en diffusion sur BFM Business, à la radio, à la télé, avec au sommaire de ce De quoi je me mêle tout à l'heure en deuxième partie. On va revenir sur les 20 ans d'un service qui a complètement changé notre vie, c'est Spotify. On est d'accord, Spotify a complètement changé notre vie. Il y a eu, pour tous les fans de musique, un avant et un après. Et on vous racontera l'histoire de Spotify tout à l'heure. Ça sera notre rendez-vous nostalgique avec Christophe Joly. On va remonter le temps. Je vous rappelle le hashtag DQJMM, bien évidemment, si vous voulez réagir à tout ce qu'on raconte. Encore un grand merci d'être fidèle à De quoi je me mêle. Et bienvenue à vous toutes et à vous tous.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech&Co.
Le Club de la Presse IT avec Pierre Fontaine cette semaine. Salut Pierre.
Salut.
Pierre Fontaine, rédacteur en chef adjoint de BFM Tech. Et nous avons aussi le retour, le comeback. Il est avec
il
nous.
Il est là.
Et il est content comme tout. C'est Damien Licata Caruso. Salut Damien.
Bonjour, bonjour à tous.
Journaliste au Parisien.
Tout à fait.
Voilà. On peut dire que tu es fraîchement papa. C'est pour
on
ça qu'on t'a
dire.
Pas vu
on peut le dire, effectivement.
Récemment.
Oui,
ben voilà.
Oui. J'ai la. Je veux d'avoir accueilli un petit être dans ce monde.
Un petit être dans
voilà.
ce monde.
Hein, si voilà. je manque un peu de dynamisme, c'est à cause de lui.
C'est les micro-siestes entre les phrases.
Ouais, ça doit être voilà. ça.
Qui est déjà équipé en objet connecté, bien évidemment.
Évidemment.
Damien,
il a le babyphone boosté à l'IA.
Tout à fait,
il a les capteurs possibles et imaginables. Il ne manque plus que le robot qui change les couches.
Ah, ça,
c'est vraiment. Je lance l'idée à la communauté de la tech.
Je te conseille de tester avant parce que
oui.
ça risque d'être une mauvaise expérience si ça ne marche pas.
Peut-être.
On a la couche, où est le bébé?
Bon, en tout cas, heureux de vous retrouver. J'évoquais Spotify tout à l'heure. On est d'accord que Spotify, c'est l'une des inventions les plus incroyables de ces 20 dernières années.
On a
tendance à l'oublier parce qu'on s'y habitue.
Ça change la façon dont on consomme la musique.
C'est dingue,
D'ailleurs, c'est assez amusant. Alors, ton fils est encore un petit peu jeune. Mais moi, je vois mes adolescents, maintenant, ils sont adolescents. La façon dont ils consomment la musique, quand on leur dit... Avant, il y avait le CD, tout ça. Ah ouais, je l'ai vu effectivement la chaîne. Mais ils ont une façon de consommer la musique. Alors, ils peuvent écouter les albums, mais ils vont les piocher. Ils ont une culture musicale qui est assez phénoménale parce que par ricochet, ils passent d'un artiste à un autre. Et puis, dès qu'on leur parle d'un artiste qu'ils connaissent ou qu'ils connaissent pas, hop, téléphone, on change. On lance la lecture d'un truc. Et donc, du coup, on découvre vachement plus facilement la musique. Alors que. À l'époque, le CD, c'était « Ah, je vais l'acheter dans une enseigne. »
Le CD de deux titres, je rappelle celui-là.
Ouais. Exactement.
C'était déjà bien cher. Et tu
qui permettait de rentabiliser un album 14 000 fois. Ouais.
Incroyable.
Bon, enfin bref, on vous racontera l'histoire. Christophe vous racontera l'histoire de Spotify, qui a eu aussi des démêlés au début avec les maisons de disques, hein, parce que ça a été un long chemin de croix pour le fondateur
d'une
de Spotify.
D'une certaine manière, Apple avait un peu préparé le terrain, pas avec du streaming,
tout
mais
à fait.
Avec du
téléchargement, hein, bien sûr, oui.
Mais effectivement,
sur iTunes.
Ouais.
Mais dans l'actualité, aujourd'hui, on va revenir en 2026 avec un lancement qui était très attendu et qui était assez délicat aussi pour Amazon. Je veux parler d'Alexa Plus. Parce que vous le savez, Alexa, ça fait...
Depuis 2018.
2018, donc ça fait 8 ans que ça existe, cet assistant vocal, qui a très vite atteint un plafond de verre. C'est-à-dire que ça n'a jamais été très intelligent, ça ne réagissait qu'à certains mots, etc., etc. Et donc, Alexa Plus a été lancé l'année dernière aux États-Unis et arrive enfin en France. Et c'est quand même la grosse actu de la semaine, parce que Alexa Plus se veut plus intelligent, permet d'avoir plus d'interactions avec l'utilisateur, gère toujours les objets connectés, va pouvoir vous commander des restos, faire plein de trucs. Je ne sais pas si vous avez suivi cette actu, mais je trouve ça hyper intéressant. Et ça risque de bouleverser un petit peu notre quotidien, cette histoire-là. Parce qu'au-delà d'Alexa, il y a bien évidemment Google et Apple avec Siri qui commence. Oui. Pierre, peut-être.
Bon, je veux bien commencer. Alors, en fait, effectivement, derrière tout ça, alors déjà, il y a une chose qui est importante, c'est que derrière Alexa Plus, il y a un homme, Panos Panay. Ça, c'est quand même...
C'est un ancien Microsoft.
Voilà, l'ancien Microsoft qui a porté les produits de Microsoft pendant longtemps. C'est vraiment il est ultra passionné, parfois peut-être un peu trop, mais c'est vraiment quelqu'un qui sait se mettre dans la peau de l'utilisateur et qui a une attention portée au détail qui est assez fascinante. Et donc, en fait, c'est un de ses chantiers quand il est arrivé chez Amazon. Il s'est attelé à ça. Et pourquoi on n'a pas eu un Alexa Plus plus tôt en France? c'est que de l'aveu de son aveu même, hein, c'est il voulait que ça soit vraiment prêt et qu'on n'ait pas l'impression d'avoir un truc au rabais, parce qu'effectivement là, les premières générations d'Alexa, entre je sais pas si les auditeurs ont eu l'occasion d'utiliser Alexa en anglais et Alexa en français, il y a une différence de réactivité, de même j'allais dire d'intelligence d'une certaine manière dans la façon dont on peut enchaîner les choses ou de compréhension qui est assez importante. Et là en fait le travail énorme, c'était faire en sorte que Alexa Plus en français soit pas une traduction à la va-vite, mais un vrai service fabriqué pour la France. Et d'ailleurs, ils sont.
C'est tout à l'honneur d'Amazon d'ailleurs.
C'est hyper intelligent en fait.
Je trouve ça très très fort.
Lancer quelque chose qui sera pas convaincant, sachant que là, c'est certes un service, mais c'est aussi, on a déjà eu l'occasion d'en parler ici, l'ouverture d'une nouvelle porte. Hein, les vrais assistants vocaux intelligents sont clairement le futur d'une forme d'interaction. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'écran, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus taper de texte, mais clairement, ça va faciliter et fluidifier les choses. Donc, autant que ça fonctionne, quoi. Et là, ils sont associés, pour la partie française, à un acteur majeur de l'IA en Europe et en France, Mistral. Hein, donc, c'est Mistral qui va être
La French Touch voilà, d'Alexa.
Le French Touch, c'est vraiment le pilote de toute l'expérience. Ils n'ont pas juste en fait traduit Alexa de l'anglais vers le français. Ils ont vraiment francisé toute l'expérience. C'est-à-dire que grâce au modèle d'IA de Mistral, ils ont réussi à créer une Alexa qui est capable de comprendre non seulement le français, mais les Français. On se retrouve dans une situation où Alexa va être capable de comprendre des blagues, comprendre des expressions qui pour nous sont très triviales. Un coup de foudre, pour nous, c'est quelque chose qui est très très simple, mais pour une IA qui a été entraînée à l'origine sur des corpus américains et anglo-saxons, c'est un petit peu plus compliqué à comprendre dans le contexte. Donc elle est capable de faire des blagues. J'ai fait la démo hier, effectivement, j'ai un peu titillé sur des expressions bien de chez nous, et elle est capable en fait de comprendre. Elle est capable de comprendre aussi, parfois, on oublie dans une phrase de mettre les négations, je ne peux pas, on dit je peux pas. Et ben Alexa était complètement incapable de le faire avant, Alexa Plus est capable de le faire. Il y a vraiment un bond technologique en avant qu'on peut remarquer tout de suite. Il suffit d'échanger en fait avec elle, et là, pour le coup, on peut vraiment échanger. Pendant des années, Alexa, ça existe en France depuis 2018. Souvent, on lui posait une question, ça s'imitait à « Mets-moi de la musique » ou « Quelle est la météo de demain ?» quoi. Et là, pour le coup, on peut vraiment un échange. Elle va se rappeler aussi des échanges précédents. Alors, ils nous disent qu'ils arrivent quand même à protéger la vie privée et les données des gens parce qu'elle ne va pas tout se rappeler. Bon, il faut quand même se rappeler que c'est un service qui est pour l'instant gratuit si vous êtes abonné Prime. Donc, il y a quand même une compensation à avoir derrière. Quand vous faites une recherche sur Internet, forcément, il va d'abord chercher sur Amazon pour pouvoir acheter les produits qui sont vendus sur la plateforme. Vous rentrez dans un espèce d'écosystème qui est logique, ils sont censés vous rendre prisonnier de cette technologie, mais si elle est performante, vous avez plus envie d'y rentrer.
J'aimerais qu'on rentre dans les détails. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette Alexa Plus ? Je parlais tout à l'heure de la réservation d'un resto. Mm. C'est vrai qu'aujourd'hui, réserver un resto, il faut un téléphone. Oui. Il faut aller sur Maps, tu choisis ton téléphone, ton resto, tu appuies sur réserver, tu commences ta procédure de réservation. Là, tu as le retour du restaurant, en tout cas de l'interface qui te dit « Ok, c'est réservé mm-hmm. ». Là, et l'exemple que les responsables d'Alexa m'ont expliqué, c'est que là, tu n'as même plus besoin de téléphone. Ouais. Tu fais tout à la voix, en fait.
Ils ont eu l'intelligence de s'associer avec d'autres services comme The Fork, La Fourchette, et plusieurs autres services de réservation de billets de concert. Et en fait, c'est comme des espèces de comme les skills à l'époque où on peut demander à Alexa de faire appel à un service et à la voix lui dire je cherche des places de concert pour Céline Dion. Bon, ça va être un petit peu plus compliqué, mais c'est un exemple parmi d'autres. Et on peut trouver aussi une réservation dans un restaurant. Et Alexa va non seulement réserver pour vous, comme les agents, parce qu'on parle beaucoup d'IA agentique, mais Alexa va être encore dans l'étape d'après, va pouvoir le faire pour vous et va pouvoir aussi ensuite le rajouter à votre agenda, regarder s'il y a un problème de compatibilité parce que vous avez déjà un rendez-vous avec quelqu'un. Elle va vraiment prendre le pas sur votre vie.
Et tu disais aussi qu'il y avait une forme de mémoire. Elle est censément capable de se souvenir, par exemple, que le petit dernier allergique aux cacahuètes, et donc préciser, il y aura une réservation pour 4 ou 5 et avec une personne qui est allergique aux cacahuètes. Donc, voilà.
Incroyable. Oui. Et donc ça va loin quand même. Hein.
C'est toujours la question de, il faut donner accès pour que le service soit le plus complet possible. Il faut donner le plus d'informations.
Et puis il faut avoir confiance aussi.
C'est ça. Pareillement, on peut aussi donner accès donc à son agenda. On peut donner accès à ses mails. pour qu'il aille piocher, pour qu'Alexa Plus aille chercher des informations dedans.
Il y a une fonctionnalité qui est aussi très intéressante, c'est via l'application, on peut aussi téléverser, uploader des fichiers. C'est-à-dire qu'on peut dire à Alexa, bah, j'ai un compte-rendu du conseil syndical, j'ai pas envie de le lire, fais-moi un résumé. Et Alexa, en fait, va prendre le PDF, l'analyser comme peuvent le faire ChatGPT et d'autres IA, mais je vais passer directement par Alexa sur un modèle surpuissant. Il y a quand même derrière 70 LLM, dont Nova, qui est
Nova,
LLM
maison,
il y a Anthropique et il y a Mistral. Donc vraiment, il y a des capacités de calcul qui sont dédiées à chaque mission qu'on va lui confier.
La force par rapport à ChatGPT, parce que c'est vrai qu'on peut faire l'analogie avec ChatGPT vocale, c'est-à-dire que vous posez une question, ça vous répond, on a une vraie interaction, un vrai dialogue. La grosse différence, c'est que là, il y a toute la partie IoT. Qui n'existe pas dans ChatGPT. C'est-à-dire qu'en plus de pouvoir réserver votre resto ou demain votre Uber, là, ils n'ont pas donné cet exemple-là parce qu'ils n'ont pas encore validé le partenariat avec Uber, mais ça marche déjà aux US, je crois. Vous rendez compte, juste parenthèse, Uber, c'est génial. Vous êtes à la maison, commande-moi un Uber pour aller Gare de Lyon. Ça prend 5 secondes alors qu'auparavant avec le téléphone c'était quand même ça prend du temps, voyez, et soi, je trouve que ça c'est pas mal.
Je vais peut-être te choquer, mais je crois qu'on est arrivé à la maison connectée. Je crois qu'on y est cette fois-ci. Ça fait 20 ans qu'on en parle.
La domotique, comme on disait quand on était petit.
La domotique à l'époque, mais la maison connectée, je crois qu'on y est, parce que les démonstrations qu'on a vues hier, je peux demander à Alexa, je vais regarder un film avec du pop-corn, et du coup, j'avais la machine à pop-corn qui était connectée à une prise intelligente, et ça lançait le pop-corn. Alexa, j'ai fait tomber du pop-corn et ça avait déclenché, par exemple, le robot aspirateur qui venait, en fait, dans le salon, nettoyer devant nous.
C'était une démo.
Je ne sais pas si dans la vraie vie, ça sera adapté à tous les environnements et ça fonctionnera aussi bien, mais en tout cas, dans la démo, ça fonctionnait plutôt pas mal.
Voilà, il y avait plein d'autres exemples intéressants. Si vous avez, par exemple, un Echo Show avec une caméra, je ne sais pas si tu as suivi aussi cet exemple que faisaient les porte-parole d'Amazon, c'est que, par exemple, tu as rendez-vous avec ton quelqu'un, enfin, ton boss ou quoi, pour un dîner, il peut te prendre en photo pour dire si, par exemple, tu es bien habillé ou si tu as un code vestimentaire qui est compatible avec ton rendez-vous. Enfin, il y a plein de trucs comme ça parce qu'il y a aussi la partie visuelle qui est prise en compte avec le Echo Show. Donc, ça va jusqu'à l'analyse
c'est
des photos.
C'est ce que tu disais par rapport à ChatGPT. Alors, ChatGPT, effectivement, est dans le smartphone, mais là, la force d'Amazon, c'est qu'ils ont déjà essaimé depuis des années dans les maisons avec les petites enceintes, avec les enceintes avec caméras, avec les caméras de sécurité. Il y a tout un écosystème qui existe déjà et qui soit peut intégrer directement Alexa Plus, soit peut être piloté via Alexa Plus. Et effectivement, je ne sais pas si on est à la maison connectée, mais en tout cas, on s'en approche dangereusement.
Ouais.
Et c'est le fantasme du tout commandé à la voix qu'on voit dans les films de SF depuis toujours. Hein. Retour à leur futur 2 qui me vient en tête, mais il y en a plein d'autres. Effectivement, on s'en approche. Alors, est-ce que ça marchera toujours bien ? Est-ce que toutes les planètes sont alignées ? Il faudra voir. Mais les piles technologiques qui arrivent comme Matter, etc., qui s'alignent depuis des années, maintenant, permettent effectivement de se dire on va pouvoir, sans avoir à sortir son téléphone à tout bout de champ ou sans avoir à se lever pour tapoter sur un écran tactile, commander sa maison, interagir avec des services dehors très très facilement. Quoi.
Ouais, c'est-à-dire qu'on pourra par exemple dire, ben voilà, je m'en vais, Alexa, je m'en vais, baisse-moi les volets, éteins-moi la lumière et mets la veilleuse au premier étage.
Je m'en vais et il y a une routine et hop,
il y a une routine ou alors même une longue phrase avec plusieurs actions d'IoT. Et elle va comprendre ce qu'elle n'était pas capable de faire auparavant.
On revient de loin quand même.
Non, mais c'est hyper intéressant. Alors bon, Alexa Plus arrive en France. Pour le tester, si vous avez une enceinte...
Echo, donc, Fire TV...
Pour l'instant, c'est en early access. Ouais. Hein, c'est vraiment quelques privilégiés. Alors, le déploiement va être un peu plus long.
Moi, on m'a dit qu'il fallait aller... Si on a un produit Amazon, il faut aller sur Amazon, s'inscrire à l'early access.
Si on achète un nouveau produit, on aura un abonnement gratuit. On prend dans une
liste d'attente, en fait.
Voilà, une liste d'attente. Et
là, c'est gratuit.
Et pour l'instant, c'est gratuit. Les personnes qui ont acheté de nouveaux appareils, ils ont automatiquement l'abonnement gratuit. Les gens qui sont abonnés Prime aussi auront accès à Alexa. Si on fait une petite analyse économique, ce qui est bien pour Amazon, c'est que déjà, eux, ils ont la capacité de la rendre plus ou moins gratuite, cette Alexa Plus, parce qu'ils ont les serveurs, en fait.
Ouais.
Tout va tourner sur AWS. Contrairement à ChatGPT qui est obligé de payer pour avoir cette puissance de calcul-là.
Oui, bien sûr. Ils ont tout à la maison.
Ils ont tout intégré à la chaîne.
C'est un peu comme Google.
C'est comme d'autres services qui sont intégrés. ils ont la capacité à tout faire en interne.
Alors, c'est gratuit, mais pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut quand même, après, être abonné à Prime, à l'abonnement oui. Prime. Et si vous n'êtes pas abonné à Prime, mois, c'est 22 euros par mois, 23 euros par mois.
23,
bah, c'est complètement... C'est un abonnement dissuasif.
Oui, après, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'effectivement, il y a un prix à la porte d'entrée. Et puis après, il reste toujours Alexa classique pour ceux qui ne veulent pas
d'Alexa. Oui, oui, oui. Mais l'Alexa préhistorique.
Voilà, c'est ça. C'est le...
Alexa bête.
Alexa bête, ou Alexa moins, peu importe. Mais oui, effectivement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce principe de l'abonnement. Et je pense que plus on y met le doigt, plus c'est difficile d'en sortir, en fait.
Ouais.
Et on retrouve d'une manière diffuse. Ce qu'on a vu avec la construction des écosystèmes iOS et Android, c'est qu'on commence, on achète une application, on achète les écouteurs, on achète ci, etc. Finalement, on se retrouve dans l'écosystème où c'est difficile de partir parce qu'on a investi et du temps et de l'argent et un confort aussi d'utilisation. Mmh. Et là, je pense franchement qu'Alexa Plus, si toutes les promesses sont tenues, s'ils arrivent à ajouter des services comme ils ont dit qu'ils allaient le faire, et a priori, il y en a plein qui arrivent, effectivement, on va se retrouver à avoir une vie centralisée par Alexa Plus, et ce sera difficile de dire finalement, je vais passer chez Google ou même chez Apple quand Siri vraiment intelligent sera là.
Voilà, très intéressant. Alors, Alexa Plus arrive en France, mais il faut savoir qu'ils ne vont pas être les seuls. Il faudrait clarifier cette histoire-là, mais Google, vous le savez, a quasiment le même service avec Google Home, qui avait été lancé quasiment en même temps qu'Alexa. On se rappelle quand même de la concurrence effrénée qu'ils se menaient tous les deux, avec des produits, avec des prix cassés, des enceintes, etc., etc. Bon, ils se sont calmés. Mais là, visiblement, Google Home aussi aurait été mis à jour avec Gemini et proposerait à peu près le même type de service. Mais c'est intéressant parce que Google n'a pas encore véritablement communiqué là-dessus, comme l'a fait Alexa. Donc, est-ce que c'est arrivé en France ? Est-ce qu'ils testent, si tu veux, sans trop en parler, pour avoir les premiers résultats, les premiers retours des clients qui ont été peut-être choisis ? Et puis après, il y a Apple qui va pas tarder sans doute à dégainer aussi.
Même si Apple,
aussi.
Ça sera du Gemini d'une certaine manière aussi.
Oui, mais avec Siri.
Voilà, mais ça sera du Siri, enfin du Gemini appelé Siri, mais oui, effectivement. Mais de toute façon, c'est ce qu'on disait, on arrive à un point là, il y a un point de...
Oui, un point de bascule.
De maturité d'une certaine manière, la technologie qui permet de franchir un cap, et ceux qui ne montent pas à bord maintenant auront de la peine à courir sur le quai pour attraper le train. Donc oui, Google qui s'est un peu pris les pieds dans le tapis du LLM au début parce qu'ils l'inventent, et puis c'est OpenAI qui leur grille la priorité, forcément, ils n'ont plus envie que ça leur arrive, donc ils vont s'engager pour avancer rapidement. Et juste, il y a un truc qui est intéressant dont tu parlais, de la concurrence entre Google et Amazon. Il y a des rumeurs assez récurrentes du fait qu'Amazon reviendrait, on en avait déjà d'ailleurs parlé, reviendrait avec un smartphone en mettant du Alexa Plus au cœur de tout ça. Et c'est une brique de plus pour attirer les gens dans son écosystème avec un service.
Et pour concurrencer encore plus Google.
Exactement. Donc après, comment ils le feront, quelle sera l'exécution, le premier Firephone était quand même relativement médiocre, il faut le dire. Il était pas pensé pour les utilisateurs, il était pensé pour vendre des choses aux utilisateurs. Donc là, moi, je fais confiance à Panos Panay pour avoir cette espèce de rigueur où il est obsédé par l'utilisation, la transparence de l'utilisation l'utilisateur en bout de chaîne.
Mm-hmm.
Donc, on peut espérer qu'effectivement, il y a une brique en plus qui va se rajouter à Alexa Plus. Est-ce que ça sera l'occasion de sauter dans l'écosystème ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est intéressant de se dire que tout le monde est en train d'avancer ses pions sur un grand tableau de Go pour...
La technologie a l'air d'être mature, puisque voilà, tout le monde, là on assiste à cet alignement des planètes,
oui,
avec à la fois Alexa, Google et Apple.
Après, il y aura forcément des questions de sécurité, de sécurisation des données, de respect de la vie privée. Enfin, il y a une maturité de l'usage. Est-ce qu'il y a une maturité de tous les aspects de la technologie ? Ça, c'est pas encore certain. Mais...
Est-ce qu'il y aura une maturité de l'utilisateur ? Parce qu'on se rend compte aussi que Alexa, même si c'est bien pratique, il y a plein de gens qui s'en sont servis quelque temps et qui après ont remisé leurs produits dans le tiroir.
Les usages n'étaient peut-être pas forcément si satisfaisants. Et qu'il y avait aussi beaucoup de fantasmes qui avaient été vendus.
Mais on n'a pas la certitude qu'avec cette mise à jour, ça fonctionne aussi.
Ça, le temps le dira. Ça, c'est sûr.
Mais ça va être intéressant de suivre tout ça.
Il y a plein de gens qui utilisaient Alexa uniquement pour demander de la musique, pour faire des choses assez classiques, assez banales.
Le fameux timer.
Voilà, ou lancer, trouve-moi une recette, donc des choses assez classiques, à la place de prendre leur téléphone dans la main, ils le lançaient sur un écho. Mais là, je pense qu'on est quand même dans un autre cycle, ouais. Vraiment, et on arrive au moment où, quand on a vu émerger ChatGPT, on s'est dit, on va vers ça, mais il y a eu une petite période de maturation qui a duré quand même 3 ans et demi, et c'est vrai que la première fois qu'on a entendu parler d'Alexa Plus, des prémices de tout ça, c'était quand même, on avait fait un voyage à Seattle, ils nous avaient montré les premiers modèles, et c'était qu'on était, tout au début, mais on se disait, mais quand est-ce qu'on aura ça chez nous? Et là, finalement, ça a pris 3 ans.
Ouais.
Qui est long.
C'est long, c'est clair. Mais bon, écoutez, à tester, si vous avez un produit Alexa, inscrivez-vous sur le site d'Amazon avec votre compte, et vous pourrez nous dire, voilà. En tout cas, nous, il nous tarde de pouvoir installer ça. Dans l'actu, on va parler un peu de sport avec le fameux bracelet connecté de Fitbit. Fitbit, rappelons-le, a été avalé par Google, hein, c'est ça ?
Oui, 2019. L'annonce 2019, validation 2021, de mémoire. Hein.
Et la marque Fitbit existe toujours ? Parce que j'avais cru comprendre toujours, qu'elle devait disparaître.
Non, d'ailleurs, il s'appelle Google Fitbit Air. Hein,
Et l'application a été aussi rebaptisée.
Elle a été rebaptisée,
Google,
effectivement. Donc on sent qu'il y a une absorption. Enfin, dès le départ, c'était un petit peu, on se demandait comment est-ce qu'ils allaient faire disparaître la marque ? Est-ce qu'ils allaient continuer à l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Là, il l'utilise pour un bracelet. C'est une nouveauté chez Google. C'est donc, ils ont déjà sorti des montres. Et là, c'est un bracelet sans écran. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'informations. Enfin, on peut le regarder, il est superbe, incroyable, mais on n'a pas d'informations.
D'accord. C'est simplement un capteur, quoi.
En fait, c'est un capteur et toute l'intelligence...
Elle est sur le téléphone.
Elle est sur le téléphone et elle vient de, je vous laisse deviner,
Google.
Gemini.
Ah oui.
Ah, merci.
Évidemment. D'accord.
Et non, et ce qui est intéressant. Donc,
c'est intéressant, ce parti pris d'avoir un petit capteur sans écran. C'est assez innovant.
En fait, il y a déjà des acteurs.
Il y a d'autres marques
sur le
sont
marché.
Sur ce segment-là, mais c'est très.
Voilà, c'est vrai qu'il y a des.
Il y a Whoop, il y a Whoop qui est
Oui, mais c'est quand même assez confidentiel, on est d'accord. La plupart des bracelets ou des montres, forcément, une montre, il y a un écran, mais les bracelets avaient des petits écrans malgré tout.
En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir la chose de deux manières. Je veux un bracelet sans écran parce que j'en ai marre d'avoir des notifications, d'avoir des écrans qui attirent mon attention tout le temps. Donc, je veux un truc où je me coupe un peu du monde et de l'écran de mon smartphone. Ça peut être la première façon de justifier le bracelet. Et puis aussi, ce qui maintenant permet au bracelet de prendre un petit peu d'importance, c'est qu'on peut interagir avec le bracelet grâce à des interactions vocales, en fait. On n'a plus besoin d'un écran pour forcément avoir des retours constructifs.
D'accord.
Alors effectivement, on ne verra pas son battement de cœur en temps réel, ça non, parce qu'il faudrait que le moteur haptique batte très 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 vite. Mais on peut avoir des retours et surtout on peut avoir des interactions. Parce que,
donc il a un micro, c'est ça ? Il a un micro,
non, pas
tout passe par le téléphone.
Voilà. En fait, il y a pas de GPS non plus dedans.
Hein,
donc, on peut pas faire son. Si on va courir, on n'aura pas son parcours. On a besoin pour avoir.
Ou alors, il faut le téléphone dans la poche.
Voilà, il faut avoir le téléphone et pour avoir la distance et le parcours précis qu'on a suivi. Mais en revanche, si tout ce qu'on veut, à part un électrocardiogramme, c'est connaître ses battements de cœur, savoir quelle est la température. Il y a aussi le suivi des cycles menstruels, donc la température de la peau. Enfin, voilà.
Suivi du sommeil, toutes les fonctionnalités qu'on peut retrouver sur d'autres appareils, finalement.
Tout ce qui vient, en fait, du capteur cardiaque de base. Voilà. Là, on l'a là et on a le suivi. Mais après, ce qui est vraiment, je trouve, assez bluffant, c'est la façon dont ils ont utilisé Gemini pour en faire un coach. Et ce qui est vraiment malin, c'est que non seulement c'est un coach à qui on peut dire je fais tel âge, tel poids, j'ai pas fait de sport depuis longtemps, j'ai un petit peu mal au genou, je voudrais me remettre au sport. Il va faire un planning. Et puis si au cours de ce programme,
donc ça va devenir ton coach, quoi.
Voilà. Alors, je pense que on a les gens qui se préparent à un Ironman, peut-être plutôt continuer à avoir un coach personnel.
Mais on n'est pas tous comme ça,
voilà.
Quoi. Donc,
mais oui, la majorité des gens pour se remettre à faire un 5 km ou un 10 km ou même un semi, ça peut marcher, ouais. Et en fait, on peut aussi, en fonction justement vu qu'il suit le sommeil. Mauvaise nuit la nuit dernière, vas-y mollo sur l'entraînement, tiens, plutôt que de faire 150 burpees et de faire un infarctus, je propose de faire plutôt de l'étirement. Ou ah, tu m'as dit que t'as mal au genou, alors on va éviter les flexions de jambes, on va plutôt travailler en isométrique, etc. etc. Et en fait, il est capable de s'adapter, j'allais dire à la volée, aux interactions et au retour d'informations que lui capte grâce à ses capteurs et grâce aux différentes informations qu'on lui fournit, et aussi grâce aux interactions qu'on a avec lui. Et ça, je trouve ça vraiment hyper malin.
Tu l'as testé, Damien ?
Je l'ai testé. Effectivement, Pierre a raison sur tous ces points. Juste une petite remarque, à qui s'adresse finalement ? Les gens qui ont déjà eu une montre connectée, qui ont déjà eu un écran, qui ont déjà pris l'habitude tout simplement de regarder le nombre des pas qu'ils font, qui sont déjà dans un écosystème, que ce soit chez Apple, Google ou d'autres acteurs des montres connectées, pourraient être un peu frustrés. Alors, soit c'est un changement complètement radical, on arrête les écrans, on se dit « bon, j'en élimine au moins un dans ma vie, ok ». Mais sinon, c'est un peu compliqué. Des moments, je voulais juste savoir, par exemple, si j'ai encore de la batterie. Il y a une LED, mais ce n'est pas très, très clair.
Ouais, normalement, quand on arrive à 1%, il vibre un petit peu.
Je voulais savoir précisément si j'avais encore de la batterie. C'est compliqué. Je voulais savoir combien de pas j'avais fait. Pour lancer un exercice, par exemple, il y a dans l'application, on peut lancer la marche. On peut lancer aussi de la course.
Il y a des détections automatiques,
mais il faut un certain seuil d'activité pour que ça se lance, évidemment. Donc moi, si je veux le lancer de manière manuelle, je suis obligé quand même de sortir mon téléphone pour activer ce service-là. Ce qui est quand même dommage, qui enlève un peu l'utilité de ne plus avoir d'écran. Donc je pense que ça s'adresse finalement encore à une minorité, mais quasiment les mêmes personnes qui utilisaient les Whoop et d'autres appareils de la même catégorie. Après, ça peut faire aussi rentrer les gens dans d'autres activités. Et ce qui est intéressant, par contre, c'est l'application. L'application est vraiment bien faite, très ergonomique. Et la dernière remarque que je ferais, c'est pour l'instant, le service est gratuit et d'expérience, on sait très bien que quand c'est gratuit, c'est vous le produit, c'est l'expression consacrée. Et je me dis que ces données de santé et d'effort, elles seraient très bien pour entraîner une nouvelle version de Gemini.
Pour avoir le coach, il y a quand même un abonnement, c'est 9 balles par mois ou 80 balles l'année.
D'accord.
Pour avoir le plus intéressant, alors il y a un petit peu moins de 100 euros le bracelet. Hein, donc, avec
l'autonomie, c'est quoi là hein?
Une semaine.
Une bonne semaine, ouais.
Enfin, c'est pas mal.
Ça dépend toujours du suivi cardiaque. Donc, si on fait, si chaque jour on court 20 bornes, on fait 100 km à vélo.
Ouais, et puis, si ton cœur bat tout le temps, effectivement, ça.
Oui. Il
s'arrête
sur deux.
Oui, c'est ça qui est cool.
C'est ça qui est bien.
Donc, 100 euros. Déjà dispo?
Oui. Disponible à partir de. Aujourd'hui, oui.
Alors moi,
j'ai
précommandé le mien et je ne vais pas l'avoir tout de suite.
Question, est-ce que ça marche aussi bien sur un Pixel que sur un
c'est
iPhone?
C'est une très bonne question.
Mais
François,
je savais qu'elle allait te faire plaisir, celle-là. Et puis en plus, ça va nous emmener sur notre prochain sujet, c'est pour ça.
Ça marche bien sur iOS en tout cas.
Ouais, iOS,
c'est pour le garantir. Et ça marche aussi bien qu'une Pixel Watch.
Vu que tout passe par l'application en fait. Okay. Ça marche avec les deux. Ouais.
Non, mais parce que c'est vrai qu'on sait qu'on verrouille techniquement pas mal
de... C'est hyper intéressant. C'est une vraie bonne question. Et c'est très malin de l'avoir fait compatible avec iOS et Android, je trouve.
C'est intéressant de voir que, Apple est véritablement sur le segment de la santé. Ça, il ne s'en cache pas. Ça fait des années avec Apple Watch. Google était sur ce segment-là, mais un petit peu plus discret. J'ai l'impression qu'ils veulent reprendre la main avec Gemini parce que, un, c'est une manne financière importante. Deux,
une source de données aussi intéressante.
Source de données importante, oui. Bien sûr.
Et une manne financière importante. Ah non, c'était le premier point.
Oui.
Mais on peut le remettre en troisième point aussi.
Non, mais c'est clair. Aujourd'hui,
non, mais il y a des gros enjeux. Il y a d'énormes enjeux en termes d'assurance. Voilà. Aux États-Unis, beaucoup de marché de l'assurance avec des assurances qui sont prêtes à payer certains appareils.
Sur un produit à 99 dollars, les gens seraient capables de s'équiper, de payer un peu moins cher leur mutuelle, l'équivalent de la mutuelle aux États-Unis. Et d'avoir un appareil finalement qu'ils auraient acheté dans tous les cas et peut-être avoir une petite réduction. Donc, ça peut être intéressant. Il faut aussi considérer ça comme pour le marché américain avant tout. Le marché européen, c'est un petit peu plus cloisonné. Mais c'est vrai qu'il y a, je pense qu'ils ne vont pas avoir trop de mal à en vendre aux États-Unis ou les rares personnes qui n'aiment pas Apple aux États-Unis vont peut-être basculer sur un produit Google.
Voilà, à tester. Donc, disponible ce petit bracelet Google. J'aimerais qu'on enchaîne sur un produit étonnant que Damien a apporté.
Tout à fait.
Qui ressemble à rien, on est d'accord.
Enfin, ça ressemble. On a trouvé la comparaison. Et il y a, pour les amateurs de séries de science-fiction, j'ai pensé à Falling Skies, qui a une dizaine d'années, où il y avait une espèce de harnais qui était installé. C'était les aliens qui débarquaient sur Terre. Et pour convertir les humains, ils leur mettaient un système d'harnais qui leur mettait dans le cou, comme ça.
Alors, c'est pas complètement positif comme image.
C'est pas très positif, mais on va plutôt voyager.
Ouais, ça fait un peu téléphone des années 90.
Aussi,
non
ouais. Mais on s'imagine.
Avec des antennes un peu fatiguées, tu vois. Parce que
un peu.
L'antenne qui a baissé les bras.
L'antenne qui n'en peut plus, en fait.
Les premiers cas. casques, tu sais, les casques sans fil au début qu'on mettait pour du coup, voilà, c'est un peu ça. Bon, après, pour se faire
rêver, ça fait un peu téléphone
plus,
Ola. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Oui, Ola.
Le passé, oui, on est encore là. Et ça fait plutôt penser, en fait, moi, j'imagine plutôt dans le métro à Tokyo. Donc, c'est un produit japonais qui est fait par Sony, qui a été lancé il y a quelques années au Japon.
Et on est pile poil dans l'actuel, ce produit. C'est ça qui est top. C'est pas un nouveau produit.
Non. C'est la version
celui-ci,
pro.
C'en est un nouveau. Mais oui.
Voilà,
mais
c'est
la version pro d'un produit qui est déjà sorti l'année dernière, qui a été commercialisé timidement en France, mais que cette année ils vont mettre un peu plus de moyens et qui est
censé c'est Sony qui fait
rafraîchir.
Ça.
Tout à fait, Sony, une branche de Sony. Sony fait plein de choses. Nous, on les connaît pour l'audio, pour le cinéma, pour plein de
PlayStation.
Pour la PlayStation notamment, et c'est vrai qu'ils ont des branches, ils ont beaucoup de chercheurs, beaucoup de sens de R&D, centre de R&D. Et à un moment, ils sortent des produits innovants comme ça. Il peut être légèrement disruptif parce que, bon, pour l'avoir porté ça, un peu dans les transports, les gens vous regardent bizarrement.
Alors,
par contre, ils ne savent pas ce qui se passe. Donc,
mais à quoi ça sert ?
Une petite climatisation portable.
Une petite climatisation
tout simplement,
portable, mon petit Damien.
Qui marche dans les deux sens.
Comme
donc
ça, t'as
réversible.
Pas froid, t'as pas chaud quand tu te balades dans la rue.
Ça va beaucoup mieux.
Mieux.
On sort des studios réfrigérés de BFM. On prend un choc thermique et effectivement, on peut l'atténuer avec ce genre d'appareil. On se le met dans le dos. Et,
entre nous ?
Oui.
Ça se met comment ?
Alors.
Voilà, alors donc pour tous ceux qui sont avec nous en audio,
voilà.
Ils se l'accrochent derrière la nuque.
Les petites pattes se posent de chaque côté du cou.
Voilà. Je suis bien calé, je lance la réfrigération.
Petites pattes qui ont été revues pour être 40% plus stables. Attention, parce que là on rigole, ça, mais en fait, il y a quand même des
en termes d'ergonomie, c'est
là,
pas.
Là, si ça bouge trop, du coup, ça refroidit plus, donc c'est pénible.
Alors, je pense pas qu'on puisse quelqu'un ait contact permanent avec la peau pour que le métal qui est réfrigéré.
Les plaques de métal,
va en fait vous donner un petit coup de froid sur une partie très sensible du corps que je ne connaissais pas forcément. Je pensais que c'était limité aux extrémités. Il y a eu beaucoup de recherches
derrière.
Mais
alors attends, ça veut dire que quand tu as ce truc-là en bas de ta nuque,
oui.
S'il fait chaud...
Tu auras littéralement des frissons dans le dos. Voilà.
Ouais.
Ça descend le long de...
Non, mais ça, t'as des frissons parce que t'es dans De quoi je me mêle.
Oui,
ça,
c'est l'émotion, mais...
Ça, c'est normal.
Le manque de sommeil, mais ça, c'est...
Non. Mais ça veut dire que t'as une sensation de refroidissement généralisé.
Oui, tout à fait. Une mini climatisation que j'ai dans le dos.
Ça trompe un petit peu le
cerveau.
Le cerveau et le corps. Parce que, effectivement, la zone en haut de la colonne vertébrale est une zone hypersensible qui est, d'ailleurs, quand on a froid, quand on se met de l'eau chaude ou un gant chaud sur la nuque, tout de suite, ça va mieux. Effectivement, c'est un centre thermique important.
C'est incroyable, ça.
Pas mal.
Ça baisse de combien de degrés ce truc-là ?
Ça te congèle
la nuque.
Je pense que ça dépend vraiment des personnes pour le coup, mais ça peut aider à faire passer un moment difficile, typiquement les transports en commun sans climatisation. Je pense que ça peut beaucoup aider.
D'accord.
Et après, c'est extrêmement ponctuel. Hein. Il vaut mieux se mettre à l'ombre et s'hydrater. Mais bon, cette technologie-là n'existait pas, donc ils ont le mérite de lancer ça sur le marché français. Je pense que c'est un produit limité pour l'instant dans sa configuration parce que pour l'instant, ils ont très peu de concurrents. Mais si d'autres acteurs viennent le concurrencer, ça peut devenir un produit aussi populaire que les petits ventilateurs rechargeables en USB qu'on a vu arriver il y a 10 ans, qui se sont miniaturisés au fur et à mesure. Et maintenant, il y en a pour les bébés, il y en a pour tout le monde.
Et donc là, si j'ai bien compris, ça rafraîchit par contact, il n'y a pas de ventilo, ça n'envoie pas de l'air frais.
Par contre, l'air chaud est évacué en haut, il y a un petit conduit qu'on peut voir.
Ah, c'est pas bon, l'air chaud. Quand tu as chaud là ?
Non, on ne le sent pas très bien. L'air va partir assez rapidement, je ne le sens pas forcément l'air chaud.
En fait, tu peux régler, alors effectivement, toutes les démonstrations qui sont faites avec des gens qui ont des chemises, qui sont bien habillés, comme François. Alors, quand on porte un t-shirt comme nous, ça fait moins bien, mais bon là. Et en fait, il y a un petit embout qui permet de une petite cheminée en fait qui permet
d'évacuer
l'air. Parce qu'en fait l'air c'est pas l'air est pas utilisé pour ventiler le dos, l'air est l'expulsion de l'air est liée au fait que ça fonctionne grâce à ce qu'on appelle l'effet Peltier, c'est en fait on fait un petit courant, on fait passer un courant qui va réchauffer ou refroidir la plaque parce que
ça peut réchauffer aussi l'hiver.
L'hiver on peut le porter, c'est incroyable.
C'est réversible tout à fait.
Voilà.
Ça fait plaque chauffante aussi, on peut réchauffer
mais bon pour l'instant les capots de voiture sont plus efficaces.
Et donc en fait c'est grâce à ça l'effet Peltier va faire un échauffement et on expulse l'air pour éviter de réchauffer au lieu de refroidir. Et
ça pour la modique somme de
229 euros.
Voilà.
J'ai l'impression que c'est un téléachat.
Bien que si ça marche, il va y avoir des petites copies qui vont arriver dans les prochaines années.
Mais sachant que c'est un produit qui est tellement typiquement asiatique. D'ailleurs, les premiers modèles, ils l'ont annoncé en 2019, commercialisé en 2020. Et jusqu'à il y a deux ans, ce n'était pas en Europe, c'était juste en Asie. Ouais. Et c'est le genre de.
Après, les mini-ventilateurs sont aussi arrivés par l'Asie. Il y a en fait, à un moment, on se tourne vers une solution qui est efficace, donc c'est possible. Le prix peut être évidemment le frein principal, mais l'efficacité, honnêtement, on est dans une bonne expérience. Après, comme je dis, il vaudrait mieux évidemment rester à l'ombre, au frais. Mais
tant
si vous avez besoin
ne
de sortir,
pas
ça
douche une bonne solution. Dans les métros.
Voilà,
c'est pas
pour
mal.
L'instant.
Étonnant comme produit. Bon,
ouais, c'est
voilà. Et puis en plus, c'est d'actualité. Donc,
Et sachant qu'il y a juste. Il y a un mode qui peut ajuster automatiquement. Ouais. Et il y a aussi un petit tag qu'on peut accrocher à son sac, à sa ceinture, etc.
Okay.
Et qui prend mesure la température ambiante et l'humidité ambiante et qui va lui permettre d'ajuster encore plus finement
okay.
Parce que son
refroidissement. Oui, comme un thermostat, quoi.
Exactement. Voilà. Et en fait, il y a un mode manuel. Donc ouais. On peut augmenter et baisser la température de la plaque. Il y a aussi un mode intelligent, évidemment, pour détecter.
Et une dizaine d'heures d'autonomie, je ne sais plus si on l'a dit. Il y a une dizaine d'heures d'autonomie. Alors après, ça dépend évidemment
de temps
des
charger,
réglages.
Par contre, mais ouais. Ça vaut le coup.
Ouais, bah écoutez.
229€.
Ouais.
Il n'y a que le prix qui jette un froid.
Un petit peu.
Non, je me demandais comment t'allais la placer, mais quel talent.
Il fallait la faire.
Ça va, elle est bien sortie.
Elle était dans le timing.
Elle était dans le timing au bon moment. Bien snipée, comme il fallait. Pour terminer, on va parler de ce petit. Comment dirais-je, cette petite tendance qui est plutôt agréable pour nous, consommateurs et utilisateurs de smartphones, et surtout, comment dirais-je, la compatibilité de systèmes qui étaient auparavant assez cloisonnés, d'un côté Android, de l'autre côté iOS, avec notamment cette compatibilité native de Chromecast sur iPhone qui arrive.
Qui arriverait.
Ouais. Qui arriverait. Hein,
prenons les pincettes de rigueur, qui arriverait. C'est Mark Gurman qui le dit, mais bon.
On saura très rapidement là.
Oui, non, ça arrive très bientôt. Oui.
Donc, Chromecast, rappelons-le, c'est le AirPlay de Google. Hein, pour faire short, c'est ça. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir, de manière fluide, interagir maintenant de système en système, comme ça.
Alors, en fait, ce qui serait nouveau, hein, reprenons le conditionnel, ce qui serait nouveau, c'est que nativement, les iOS, macOS, etc., seraient compatibles avec Google Cast. C'est-à-dire la technologie qui permet d'envoyer depuis un appareil vers un autre appareil.
Oui, tu regardes une série Netflix depuis ton iPhone.
Voilà. Jusqu'à présent, on pouvait le faire, on pouvait le faire via des applications sur un iPhone, mais il fallait que le développeur, avec ses petits doigts, il fasse l'effort d'intégrer cette technologie.
Ce qui était le cas chez Netflix, par exemple. Ouais. Moi, j'ai un iPhone, mais j'ai un Chromecast.
Pour toutes les applications.
Voilà. Mais effectivement.
Mais là, la nouveauté, c'est que ce serait en natif comme AirPlay.
Dans l'OS, au niveau de l'OS. Donc, ça veut dire que toute application qui veut l'intégrer, elle n'a qu'à taper dans la brique qui est développée dans l'OS et ça se passe bien. Et effectivement, ça veut dire que AirPlay serait. On aurait le choix entre les deux. Quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de téléviseurs qui sont plus et qui fonctionnent sous Google TV, etc., qui sont plus compatibles Google Cast que AirPlay. Et donc, ça ouvre potentiellement plein de portes de facilitation de l'échange de contenu, d'affichage de contenu depuis son smartphone, etc. etc.
Mmh. Mais alors, c'est Apple qui a décidé d'un coup d'être généreux
Ou est-ce que c'est plutôt la pression de la réglementation
européenne.
Mais il a été gentil parce qu'on lui a mis la pression.
Voilà.
Il aurait été gentil parce qu'on
lui a tordu gentiment le bras et du coup, il s'est dit on va le faire.
Aïe, arrêtez. Ce sera encore un effet effectivement du DMA, donc le règlement européen sur les services, enfin pas sur les services, sur le marché. Des technologies qui a ouvert la porte à plein de choses, hein, aux app stores alternatifs, etc. Ouais. etc., etc. quoi.
C'est que le début.
Donc c'est plutôt pas mal, plutôt une bonne nouvelle.
Si ça se confirme, pour l'utilisateur, c'est plutôt bien, oui.
Ouais. Écoutez, ça sera notre petite bonne nouvelle pour terminer cette première partie de ce De quoi je me mêle. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup Damien Licata Caruso, qui est journaliste au Parisien. Merci à toi, mon cher Pierre.
Après.
Pierre Fontaine, qui fait partie de la famille, puisqu'il est rédacteur en chef adjoint du site BFM Tech, qui fait partie de notre bien belle maison, ma foi.
Très belle maison.
Et surtout, ne vous bougez pas, parce qu'on se retrouve après notre rendez-vous nostalgique pour le petit module bonus. Voilà. Vous restez avec nous, vous qui nous écoutez, que ce soit à la radio, à la télé, en podcast ou sur YouTube. La deuxième partie, on va se plonger dans l'histoire de Spotify. Voilà une innovation qui a complètement changé notre manière d'écouter de la musique. A tout de suite et merci d'être là pour De quoi je me mêle.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Voilà la deuxième partie de ce De quoi je me mêle. Un grand merci d'être là, fidèle de semaine en semaine à votre rendez-vous tech du week-end. Il est temps maintenant d'accueillir Christophe Joly dans De quoi je me mêle. Salut Christophe.
Salut François.
Christophe Joly qui ouvre pour nous chaque mois les tiroirs poussiéreux de la tech. Cette fois-ci, on va fêter un anniversaire hyper important. Franchement, si moi je devais faire une espèce de top 3 des innovations les plus marquantes de ces 20 dernières années, je pense que Spotify serait ou numéro 1 ou numéro 2. Je mettrais l'iPhone, j'hésite entre l'iPhone et Spotify, parce que Spotify quand même a complètement bouleversé notre manière d'écouter de la musique.
Ouais, complètement, c'était il y a 20 ans.
C'était il y a 20 ans.
L'idée de Spotify remontait à il y a 20 ans, il a été lancé 2 ans après, en 2008. On va remettre le contexte de ce que c'était la tech en 2006, c'est l'année de lancement de la Nintendo Wii et de la PS3 avec le Blu-ray, c'est la guerre des formats. HD-DVD et Blu-ray, dont tu te souviens forcément, l'arrivée de Twitter, l'iPhone n'existe pas, et on verra combien c'est important dans le cadre de Spotify.
Il est arrivé l'année d'après,
le
premier iPhone.
Et iPod et iTunes, chez Apple, ont déjà 5 ans, puisqu'ils ont été lancés en 2001.
Ouais.
Et en 2006, le marché du disque est vraiment en crise sévère. Au niveau mondial, la musique génère presque 20 milliards de dollars, en baisse de 5%. Le numérique représente 2 milliards de dollars. Le physique est toujours largement majoritaire, 90% du marché se vend des CD. Le vinyle est en décroissance. Le hic, c'est le téléchargement illégal. On estime qu'il y a 20 morceaux téléchargés illégalement pour un acheté légalement.
Ouais.
Donc le fossé est immense.
On se rappelle à l'époque des plateformes de piratage, les Kazaa, les Napster. Enfin, c'était le Far West, quoi.
Ah bah, complètement. Et en France, le débat est vif. Hein. On s'en souvient, on en avait parlé à l'époque avec la riposte graduée mise en place par la commission Hadopi.
Oui.
En 2009. Donc
on avait même ouvert le dossier, rappelle-toi, de la licence globale. C'était un gros sujet à l'époque. Hein. Il y avait des politiques qui imaginaient une espèce de forfait qu'on pourrait donner tous les mois ou tous les ans qui nous permettrait de tout télécharger, en fait, d'écouter toute la musique, finalement. C'est fou, hein, parce qu'on y est revenu, on y est presque. Alors, ça coûte cher aujourd'hui,
mais on y est presque. Et à cette époque, on télécharge aussi des morceaux, notamment via iTunes Store qui avait été lancé en France en 2004. On achetait des morceaux, rappelle-toi, 69 centimes, 99 centimes ou 1,29€. Et en 2006, les deux fondateurs de Spotify, Daniel Ek, qui à l'époque a 23 ans, il est développeur et entrepreneur particulièrement doué, et Martin Lorentzon, qui lui a 32 ans, 37 ans et une longue expérience dans la publicité en ligne. Et Martin rachète la boîte de Daniel. C'est là où ils se rencontrent, où ils discutent, ils échangent. Ils se disent, on a certainement un truc à faire dans le cadre pour lutter contre le piratage de la musique. Et Daniel Ek dit, j'ai dit à mon équipe, si nous parvenons à donner aux gens l'impression d'avoir toute la musique du monde sur leur disque dur, nous aurons créé quelque chose de bien meilleur que le piratage. Donc l'idée, c'est de proposer une alternative crédible. Je dis disque dur parce qu'à l'époque du Spotify, à son lancement en 2008, ce n'était pas sur les téléphones, c'était sur les ordinateurs, c'était sur les PC.
Ouais.
Et ça, c'est important à intégrer. Et donc Spotify est lancé le 7 octobre 2008, dans quelques pays, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Finlande, Norvège et en Suède. Un accord est signé parce que c'est le nerf de la guerre avec les majors. C'est ça qui a pris du temps entre l'idée initiale, le développement de la solution technique, mais les négociations avec les majors qui étaient vent debout, évidemment, contre le piratage, mais qui voulaient aussi sauvegarder leur système physique, en fait.
Mmh.
C'était ça leur source de revenus. Et là, on était dans quelque chose d'inconnu. Donc, les négociations ont duré. Ils signent avec Universal, Sony, EMI et Warner. Et là, Daniel Ek, à nouveau, dit que le modèle d'achat et de possession de la musique est complètement obsolète. Donc, ce qu'il propose en octobre 2008, c'est un accès instantané à la musique, conditionné au développement du web, évidemment, des connexions Internet à domicile, un modèle légal financé par abonnement et la publicité, on va le voir également, une expérience plus rapide et simple que le téléchargement illégal. Effectivement, à l'époque, pour télécharger illégalement, il fallait quand même s'y retrouver. Le catalogue, à l'époque, comporte 2 millions de titres. On va voir par rapport au catalogue d'aujourd'hui combien le...
Je me souviens, alors, il y a un truc, une série que je vous invite à regarder sur Netflix qui s'appelle The Playlist et qui raconte en fait l'histoire de Spotify, la naissance, la genèse de Spotify, qui est très réussie. Et les obsessions de Daniel Ek étaient que lorsque tu cliquais sur la chanson que tu voulais écouter, il fallait que ça se lance instantanément. Il ne voulait pas qu'il y ait de buffering parce qu'il trouvait que ça dégradait en fait l'expérience utilisateur.
Tu vois. Bah, donc, comme un CD en fait.
C'était une obsession pour lui, donc il allait tout le temps voir ses ingénieurs en disant « Je ne veux pas qu'il y ait une seconde d'attente quand vous appuyez sur le truc, il faut que ce soit instantané. » Et c'était presque obsessionnel en fait.
Eh bien, on va le voir juste après parce que c'est vraiment ce dont a été crédité Spotify dès son lancement par tous les médias qui en ont parlé. Donc je l'ai dit au début, c'était sur PC exclusivement. Il est arrivé sur mobile en septembre 2009. L'iPhone donc a été lancé en 2007. Donc c'est là où il se passe quelque chose quand même. Quand on peut écouter toute sa musique dans sa poche, ce qu'on faisait avec les baladeurs auparavant, les iPods et tous les autres, désormais on peut le faire avec son téléphone. Et quand le Spotify est lancé, donc TechCrunch décrit un service incroyablement rapide et efficace. Dans le sillage de ce que tu dis à l'instant, le Guardian écrit que ça pourrait être le Napster du futur, appréciant le catalogue et la simplicité d'usage, parce que c'était très simple à utiliser. En 2009, 01net en France aime la simplicité du service, la formule gratuite, avec une formule gratuite, donc avec de la pub. Donc, il y avait aussi une formule à la journée, tu payais 99 centimes d'euros.
Ok, ouais, d'accord. Ils se cherchaient en fait.
Oui, ils étaient en train d'imaginer, donc une journée de musique. Du jour pair. Et ensuite, tu avais la formule à 10 euros par mois, où là, tu avais un accès illimité, évidemment. Et donc, 01net trouve que la formule gratuite est bien parce que la pub n'est pas intrusive. La recommandation de morceaux fonctionnait bien, la rapidité de la recherche et l'écoute étaient très performantes.
Moi, je pense qu'il faut appuyer sur un truc dingue, c'est que d'un coup, on se retrouvait avec un catalogue illimité de musique simplement avec un moteur de recherche. Et c'est ça qui était incroyable, tu vois. Tu avais envie d'écouter, je sais pas moi, Madonna, Michael Jackson.
Bah, tu avais accès à une bibliothèque, une discothèque infinie.
Voilà, et instantanée, alors qu'avant, ça n'existait pas. Il fallait que tu ailles sur iTunes, que tu télécharges des titres, que tu les payes à l'unité. Et là, d'un coup, ça a complètement libéré la manière dont on écoutait la musique.
Alors, c'est très associé à la libération de la data sur les téléphones. Hein. On va y venir après.
Hein, bien sûr.
À l'époque,
oui, il y avait les forfaits aussi.
Voilà, les forfaits étaient chers, la data illimitée était limitée.
Il fallait rester en Wi-Fi.
Il y avait quand même pas mal de choses. Désormais, c'est même plus un sujet. On se pose même plus la question de savoir le nombre de data que tu consommes. On a des forfaits à 200, 300 gigas. Bon, ça, on a vraiment de tout à ce niveau-là. Alors, ce qui est intéressant de regarder, c'est que Spotify n'a pas été le premier. Le premier, c'est un Français.
Oui.
C'est
Deezer.
C'est Deezer, effectivement. Oui. Alors, c'est un petit Français qui est devenu aujourd'hui un petit acteur qui est toujours là. Hein. Il s'est lancé en 2007. Et à l'époque où Spotify se lance, Deezer a déjà 3 millions d'utilisateurs mensuels, donc c'est quand même pas neutre. Et Deezer décollera quand il signera des accords également avec Sony Universal, avec 3 700 000 titres à son catalogue quand Spotify arrive. Donc Spotify a 2 millions de titres et Deezer en a presque le double.
Ouais.
Si ce n'est qu'on va le voir, la force de frappe de Spotify est telle.
Et monstrueuse.
Que Deezer
en fait, Spotify a réussi l'international là où Deezer a eu beaucoup plus de mal.
Voilà. Comme Dailymotion dans la vidéo
Exactement.
Est resté un acteur local. C'est
Exactement.
C'est un peu la même chose. Alors, on a un autre Suédois qui s'est lancé également en 2007. C'est SoundCloud, dont on parle moins. Mais SoundCloud, à l'origine, c'était pour permettre à des artistes de se partager des morceaux entre eux. Puis c'est devenu aussi une plateforme de musique qui permet d'accéder à différents morceaux. Amazon lance son service de téléchargement Amazon MP3. Avec une différence, c'est qu'il n'y a pas de DRM. Donc, tu pouvais acheter les morceaux et en faire ce que tu voulais. C'était vendu entre 89 centimes et 99, à peu près pareil. Un autre français sera lancé en 2008, dont on parlait à l'instant avant l'enregistrement, qui est...
Qobuz,
voilà.
Oui. Donc, c'est un positionnement un peu particulier qui s'adresse plus aux mélomanes.
Aux mélomanes, aux audiophiles. Ouais. Ils promettent une qualité CD.
Oui.
Voilà. Donc, ils existent toujours. Ils ont été en grande difficulté à un moment donné, ils se sont repositionnés et désormais ça marche mieux. À l'époque, on vend toujours beaucoup de baladeurs, ils s'en est vendu 180 millions d'exemplaires en 2008, dont 50 millions d'iPod, qui est largement leader sur ce marché. Est-ce que tu te rappelles d'un baladeur qui s'est planté ?
Ah bah oui, le fameux Microsoft Zune.
Ah ouais, qui est certainement l'un des plus gros échecs de l'histoire de la tech, dont on parlera peut-être
c'était
un jour.
C'était une usine à gaz incroyable. Il n'est même pas sorti en France d'ailleurs, tellement ça a été un bide. Ils ont dit non, mais c'est pas la peine de le sortir en Europe, les gars.
Je pense qu'on pourrait faire un truc spécial sur les échecs de Microsoft, parce qu'il y en a eu quelques-uns qui viennent d'esprit.
Oui, c'est vrai.
Un mastodonte qui s'est planté. L'iTunes Store en 2009 est largement leader avec 60% du marché en France. En 2010, Spotify décolle avec 10 millions d'utilisateurs. Ça change vraiment quand en 2011, ils se lancent aux États-Unis. Là, les négos avec les majors ont été longues parce que les négociations sont faites pays par pays.
Mais oui, bien sûr.
C'est pour ça que le déploiement n'est pas mondial.
Et puis rappelons que Spotify est une boîte européenne. Donc,
suédoise, oui.
S'attaquer aux États-Unis, c'est
et aux majors américaines, et on va voir juste après. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Spotify a fait son communiqué de presse de lancement, donc en 2008, l'Allemagne figurait parmi les pays lancés. Eh bien non. Spotify a été lancé en Allemagne en 2012. C'est que les négociations ont duré tellement longtemps, ouais. 2012 versus 2008, pour le lancement en Allemagne.
Donc, dingue, hein, quand même.
Pays par pays, ouais. Désormais, c'est dans 180 pays, donc ce n'est plus vraiment un sujet. En 2013, Spotify met l'accent sur les playlists, qui va être un élément majeur en fait, des plateformes.
Et qui fera la popularité aussi, je pense.
Bah ouais, de Spotify, Spotify, c'est les recos, c'est les playlists, c'est les partages de playlists. Et donc les majors arrivent, Amazon lance Amazon Music en juin 2014, Apple, Apple Music en juin 2015, après le rachat de Beats Music, et YouTube se lance dans la musique en 2015. C'est là où l'échelle devient beaucoup plus importante, parce que le service se popularise, oui. Évidemment. On a un petit acteur qui fera parler de lui, Tidal, en mars 2015, qui est la propriété du rappeur américain Jay-Z, dont on parlera beaucoup, qui a la même promesse qu'Oke Buzz, à savoir du son en haute résolution. Il faut savoir que Jay-Z a racheté cette boîte suédoise. Voilà, Tidal, là-bas, c'est pas lui qui l'a créé, on en a parlé comme ça, mais non, en fait, c'est une petite boîte suédoise qui a été rachetée, et puis dont il est devenu l'ambassadeur.
Il y avait aussi le débat sur la rémunération des artistes aussi à l'époque.
Qui fait toujours débat. Hein.
Qui fait toujours débat, mais à l'époque, en fait, Jay-Z avait racheté cette boîte-là pour essayer de mieux rémunérer les artistes. Ouais. Et Tidal, qui a jamais véritablement décollé.
Non, qui existe toujours, mais qui ne perd pas complètement.
Assez confidentiel.
Et en 2018, signe du succès de Spotify, la boîte est introduite en bourse à New York avec une valorisation à 26 milliards de dollars. Ils se lancent dans les podcasts, et ici notamment un contrat avec un podcasteur célèbre, Joe Rogan, avec un contrat, tiens-toi bien, à 100 milliards de dollars.
100 millions.
100 millions de dollars.
100 milliards, 100 milliards, ça fait beaucoup.
Ouais, ça fait beaucoup.
Mais 100 millions, c'est déjà pas mal.
Mais c'est déjà pas mal. Mmh. Et c'était un contrat renouvelé dont on n'a pas les montants des contrats suivants. Ça veut dire que c'était probablement revisé à la hausse. Mmh. Donc 100 millions de dollars, c'est significatif des ambitions de Spotify qui
devient une
plateforme.
Il y avait une petite polémique à l'époque du Covid parce que je crois qu'il était c'était un anti-vax. Enfin, il y avait eu tout un truc qui était qui était pas forcément très populaire pour Spotify.
Ouais, qui était pas top. Ils se lancent aussi dans les livres audio. Ça veut dire qu'ils veulent proposer autre chose que de la musique. Et en fait, ce qui fera décoller le streaming musical, Spotify mais tous les autres, en 2008, il se vend 140 millions de smartphones. Donc on en est au début, hein, là, il y a un an.
Bien sûr.
On en est aux prémices. En 2025, ils s'en ont vendu 1,2 milliard. Voilà.
Donc, la messe est dite.
La messe est dite. La data n'est plus un sujet sur les téléphones mobiles. Je le disais, un forfait Origami Plus chez Orange en 2008, ça coûtait 49 euros et c'était plafonné à 500 mégas. Donc, supposé illimité, mais ensuite c'était en débit dégradé. Ouais. Désormais, c'est plus un sujet. C'est vraiment, c'est plus une difficulté de savoir combien on consomme de data. Et aujourd'hui, le streaming fait partie de notre quotidien. On ne se pose plus vraiment la question. Il y a 837 millions d'abonnements payants à un streaming musical dans le monde, selon l'IFP, qui est l'Institut du syndicat de la musique à l'international.
Donc, abonnements payants. Hein, abonnement. On ne parle pas des abonnements gratuits avec publicité.
Non, voilà. D'accord. Des abonnements payants.
OK.
Donc c'est quand même très conséquent. Le streaming représente 70% des revenus de la musique. Le vinyle est toujours vivant. On l'a annoncé mort, mais en fait il est en croissance, ça fait 16% le CD et le vinyle du marché de la musique.
Ouais, donc le support physique n'est pas mort. Hein.
Il n'est pas mort, le vinyle est en croissance de 14%. Donc c'est quand même pas neutre. Mmh. Je trouve que c'est assez intéressant. En France, le vinyle a dépassé le CD, puisqu'on a 98 millions d'euros versus 91 millions pour le CD. Alors Spotify est largement leader du marché, puisqu'ils occupent 30%. À l'échelle mondiale du marché du streaming. Le second, c'est un chinois, c'est Tencent Music, inhérent à la taille du marché chinois.
Logiquement.
Apple Music est troisième, Amazon Music, YouTube Music et Deezer, dont on parlait, ils ont entre 1 et 2% du marché. Donc c'est pas grand-chose. Et quant à Spotify, ils sont désormais diffusés dans 180 pays. Ils avaient 2 millions de titres au début, ils en ont 250 millions aujourd'hui. Et Spotify est valorisé à 100 milliards de dollars. Voilà. Donc 26 ouais. lors de l'introduction en bourse, est désormais 100 milliards, donc c'est une boîte qui se porte plutôt bien.
Oui, qui a eu du mal à trouver son équilibre économique. Hein,
oui, il a fallu du temps.
Mais qui, ça y est, maintenant gagne de l'argent.
Et ils ont annoncé avoir reversé 11 milliards de dollars royalty
au major.
Sûr, ouais. Donc c'est quand même pas neutre, si ce n'est, on en parlait, la rémunération des artistes fait quand même débat, elle est quand même très très faible. Mmh. Et ce qui est reproché à ces plateformes, Spotify, mais aussi aux autres, c'est donner beaucoup aux gros artistes et assez peu aux tout petits. Et ça questionne sur le modèle, et c'est là aussi la dictature des algorithmes.
Tout à fait. Et après, il y a le débat aussi sur l'IA hein, ouais. et le fait que ces plateformes soient envahies par des titres ouais. générés par l'IA.
Ouais, Deezer,
on voit que voilà, tout ça n'est pas un chemin tranquille parce que effectivement, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on accepte des chansons générées par l'IA ? Est-ce qu'il faut le signaler aux utilisateurs ?
Bah, c'est ce que fait Spotify voilà. avec Verified, avec un label qui atteste que c'est un humain qui a créé la musique que vous êtes en train d'écouter.
Ouais. Tout ça est passionnant. Merci beaucoup, Christophe.
Merci.
Les 20 ans de Spotify. Mon Dieu, que ça passe vite.
Oh, mon Dieu.
Waouh.
Allez, on va écouter la musique.
Eh bien, ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous. Et on se retrouve bien sûr le week-end prochain. Si vous êtes avec nous en audio, quelques minutes supplémentaires vous attendent sur le podcast. Donc restez là. À très vite, portez-vous bien et on sera là la semaine prochaine.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.